Le livre des règlements, une présentation de 1855mètres.com. Les spécialistes en matière de CNESST et SAAQ.
1855MAITRES.
Maître Mongeon qui est avec nous, avocat chez Desroches Mongeon, avocat. Sophie, comment ça va?
Allô Sophie.
Allô Sophie.
Ça va bien vous autres?
Très bien.
Ça va très bien. Maître Mongeon, commençons avec le podcast. Qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine à Entre deux maîtres?
Cette semaine, je dois avouer, je pense que j'ai beaucoup de courage. J'adresse une question hyper importante, les droits et la vaccination. Je sais que c'est un sujet extrêmement délicat,
oui.
Mais je peux pas dire que je représente le citoyen puis pas répondre aux centaines de courriels, puis de textos, puis de tweets que je reçois.
Ça
serait passé au-delà de... Je respecterai pas mon mandat de citoyenne, puis d'avocate, puis mon serment. Donc, demain, on attaque tout ça. On va parler de droit du travail, charte, et aussi le programme de vaccination. Donc, effectivement, au Québec, si on a une complication d'une vaccination ou on en décède ou quoi que ce soit, il y a un programme d'indemnisation. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, qui ne savent même pas que ça existe. Fait que mon objectif, c'est d'en discuter. Et là, je suis accompagnée de Maître Julius Gray, une sommité en droit constitutionnel.
Oui.
Et également Maître Hans Mercier. Lui, il représente aussi les victimes du lac Mégantic. Donc, lui est habitué à représenter des grosses causes. Et puis, c'est lui qui a déposé la requête auprès du tribunal pour faire suspendre l'application du passeport vaccinal.
Et il y a bien des cas dont on parle dans l'actualité sportive. Hein. Ce matin, Daphné nous rappelait que Kyrie Irving qui refuse de se faire vacciner et que dans l'État de New York, tu peux pas jouer tout simplement. Et bien, il peut pas aller à l'entraînement aujourd'hui parce que
pas rentrer dans le building.
Il n'est pas vacciné, donc effectivement, il faut qu'il s'entraîne dehors avec les jeunes, j'imagine, à jouer au basketball dans le quartier. Et c'est le cas de Josh Archibald des Oilers d'Edmonton, qui lui, quand même, a ses raisons bien claires.
Ben c'est ça, c'est exactement. Ça m'emmène donc à deux dossiers que je voulais discuter avec vous par rapport à la vaccination.
Parce que lui, Archibald, il a eu la COVID et il a des effets à long terme qui l'empêcheront de jouer, là.
Exactement, il a développé une condition cardiaque, une myocardite. Donc, à partir de ce moment-là, il en découle des séquelles importantes. Et si on fait l'analogie, si tu contractes la COVID et tu as des séquelles, tu n'as rien au niveau financier. Moi, c'est les finances que je regarde. Là. Je ne regarde pas la santé. Là. Mais si tu développes une complication par rapport à la vaccination, tu as un système d'indemnisation. Fait que quand vous prenez vos décisions là, pro-choix, mettez ça dans votre colonne aussi. Là. Fait qu'on faut être conscient de ça. Donc, Josh Archibald, lui, pour des questions qui lui sont personnelles, a refusé, était un peu contre le vaccin. Et voilà, il y a des conséquences qu'il va être obligé de supporter et d'avoir.
Ben maintenant, il y a une condition cardiaque qui est liée à la longue COVID.
Oh, oui,
c'est ça qui l'empêchera de jouer, surtout. C'est des effets à long terme qui arrivent dans un certain pourcentage de cas de COVID. Là. Et donc, les jeunes, pour les effets à long terme, ne sont pas à l'abri. Là. On parlait toujours du danger pour les personnes âgées, là, mais la perte du goût, la perte des capacités cardiaques aussi à long terme. Là.
Oh, les difficultés de sommeil. Moi, j'ai quelqu'un qui a la COVID longue que je connais. Les difficultés de sommeil, le manque d'énergie, le manque de concentration, ça a toujours des séquelles à long terme. Donc, effectivement, quand tu choisis, tu as des conséquences. Et c'est un peu le contraire avec le cas de Andrew Wiggins, qui, lui, dans la NBA, au début, ne voulait pas se faire vacciner. Il invoquait des droits de religion sans vraiment préciser. Mm-hmm. Et étant donné que le vaccin est obligatoire pour entrer dans le stade des Warriors de Golden State, donc à Frisco, là, il s'est finalement... Il a pris le choix de se faire vacciner.
Deux joueurs des Tigres qui ont été arrêtés hier. La plainte avait été déposée au mois de juin dernier. On en avait parlé. C'était au lendemain de la conquête de la Coupe du Président. Disons que ça a acheté une douche d'eau froide sur les célébrations. Ces deux gars-là étaient dans l'alignement des Tigres pour débuter la saison lors des deux premiers matchs. Et voilà qu'hier, on les a interpellés.
Oui, mais là, j'ai goût de revenir un petit peu dans le temps puis vous dire deux poids, deux mesures. Là. Quand on fait une comparaison avec le cas de Logan Mailloux, qui, lui, était à l'extérieur du Québec, donc lui a été condamné à une amende de 2 000 $ uniquement. Lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait quand même pris des photos de ses rapports intimes avec la jeune femme puis les avait partagées à ses coéquipiers. Donc, 2 000 $ Et là, on parle de deux jeunes. Je prends pas leur défense du tout, là. Je vais juste vous faire une comparaison, là. deux jeunes ici qui peuvent être condamnés à 5 ans, parce que je pense que c'est Daigle qui a partagé les images et non Siciliano.
Ouais. Ouais, on s'entend que dans les crimes, on commence par parler d'agression sexuelle et le partage d'images est un autre élément, mais Logan Mayou, c'est pas une agression sexuelle. On s'entend, c'est une erreur de jugement majeure, c'est un acte criminel, mais ce que Daigle et Siciliano ont reçu comme accusation, on parle d'agression sexuelle.
C'est encore, oui, je suis d'accord avec vous que c'est pire, mais quand même, on voit que dans deux pays différents, il peut y avoir des circonstances différentes.
Ouais, mais donc, on ne peut pas comparer les deux cas. Tu sais, Mayou était mineur en plus. Là, ici, les deux accusés sont majeurs et la victime est mineure. Donc, c'est deux dossiers totalement différents. Ouais. Là.
Donc, les deux peuvent être condamnés à 10 ans pour agression sexuelle et le 5 ans pour la publication non consensuelle, d'une image.
Voilà.
Ça, c'est les peines supplémentaires là, qui pourraient leur être accordées, sans compter que probablement leur carrière est terminée pour eux. Là.
On va voir, parce que là, il y a toujours la présomption d'innocence, mais c'est clair que pour l'instant, si justement, on va voir la décision des TIG et de la Ligue, mais ça serait logique qu'ils doivent se retirer en attendant que l'enquête se fasse, enfin pas l'enquête, mais que le processus en justice se fasse, mais ça peut être long au Québec. Là, si on perd un an à 19 ans dans le hockey junior, c'est vrai que ça peut être terminé après. Là.
Oui, effectivement. Puis moi, je pense que le temps de réflexion que la Ligue apprend, c'est aussi pour prendre le pouls du public, pour voir les réactions et s'ajuster en conséquence. Parce qu'on sait que le hockey est très important au Québec et l'image publique puis l'opinion aussi. Fait que je pense qu'en plus de voir prendre le temps de prendre connaissance du dossier, ils veulent voir les réactions du public pour pouvoir prendre une décision qui aussi peut être dite populaire. Là.
Mais il me semble quand même que c'est logique qu'on se retire dans ce genre de situation-là, surtout quand on exerce un métier public?
Oui, bien, effectivement. Mais là, il y a la présomption d'innocence qui est protégée par la Charte.
Oui, oui, okay. Tout à fait. Ben, c'est pour ça qu'ils sont libres aujourd'hui. Là.
Ils sont libres, pas en prison, effectivement. Là. Mais je fais toujours l'analogie que ta vie privée, c'est ta vie privée et ton travail, c'est ton travail. Si, par exemple, Louis, toi, il t'arrive quelque chose dans ta vie privée, mais là, je fais une analogie, qu'il n'y a pas de conséquences sur ton travail, il devrait avoir une coupure entre les deux et c'est un droit qui est protégé par la Charte.
Mais Sophie,
toutefois, dans la mesure... Je continue, là.
Continue.
Donc, mais dans la mesure où tu es un personnage public...
Oui.
Et c'est là que je rajoute, à ce moment-là, il y a une complexité qui s'ajoute. Mais dans le cadre d'un travail ordinaire, ta vie privée reste ta vie privée dans la mesure où ça n'a pas un impact sur ton travail.
Oui, c'est ça, c'est certain. Parce que quand tu es dans le public, tu représentes l'entreprise pour laquelle tu travailles. Quand tu es un joueur de hockey, tu représentes ton équipe. Quand, exemple, je suis à la radio, là, tu sais, je représente pas juste moi, là, je représente mon équipe. Ici, là, autour de la table, je représente mes patrons, je représente le 91.9 Sport, RNC Média. Si, là, ça me dérange pas, là, je suis pas un délinquant sexuel, mais je vais y aller dans l'hypothèse. Si ça m'arrive que j'ai une accusation d'agression sexuelle, là, OK? Bien sûr, je suis innocent jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que je peux animer du sport le matin?
Ben moi, je serais tenté de te dire que si je te représentais, je dirais que ça n'a pas d'impact sur tes qualifications au niveau professionnel.
Ben, c'est sûr que je choisirais comme avocate, là. C'est sûr que...
Mais c'est sûr que moi, mon travail, c'est de regarder, tu sais, je veux dire, c'est pas d'y aller avec une décision qui est populaire, là. C'est quand même de regarder qu'une personne a le droit d'être représentée et d'avoir une défense pleine et entière. Est-ce que je suis d'accord avec les gestes qui ont été faits? Je pense que j'ai même pas besoin de répondre à ça, là.
Ben non, mais... il n'y a pas question de ça. Tu es une avocate, puis tout le monde a le droit à une représentation juste, là. C'est ce que tu
fais. Donc, mais les ligues comme ça, c'est des entreprises privées, donc c'est des employeurs, et l'objectif, en bout de ligne, c'est préserver l'image publique de la ligue pour pas que ça ternisse la réputation. Et c'est pour ça que la Ligue, la NFL, elle, dans ses documents, ses politiques de conduite sont beaucoup plus claires. Ils ont été obligés de mettre des politiques sur la violence domestique pour éviter justement qu'il y ait des joueurs qui causent des actes à l'extérieur qui ternissent l'image. Donc, ils ont instauré des politiques extrêmement clair sur ta vie à l'extérieur de ton travail et que ça peut avoir des conséquences.
Ce matin, Daphné m'amenait l'article dans la LHJMQ. Il y a un code d'éthique que tout le monde doit signer. Et ça, c'est le cas aussi dans l'hockey mineur. Autant joueurs qu'entraîneurs, que bénévoles, les parents même, on signe un code d'éthique. Et donc, il y a un article bien précis lis-nous-le, Daphné.
Qui dit que les athlètes doivent signer un contrat d'engagement qui stipule que tous les comportements là, inappropriés et criminels peuvent entraîner une suspension, une expulsion de la Ligue?
Bien sûr, ici, il faut faire faire la nuance. Ils sont pas encore condamnés. C'est-tu là la nuance qu'il faut voir, Sophie?
Ben, moi, je pense que oui, mais dans ces circonstances-là, comme toute autre décision qui est prise, on commence par une suspension sans solde. Donc, à ce moment-là, ils vont être suspendus le temps d'une enquête, mais malgré tout, même s'ils sont acquittés au niveau criminel, je vais m'en tenir à ça. Probablement, de toute façon, leur carrière va être terminée. Il y a des actions dans lesquelles on ne s'en remet jamais. Là.
Et imagine si dans tout ça, parce qu'il y a toujours cette possibilité-là, c'est pour ça que ça existe, la présomption d'innocence, c'est possible que l'accusation soit fausse. Ça existe, cette possibilité-là. Et malgré tout, ben, perdre un an de hockey, à ce moment-là, il y a des dommages.
Oui, il y a des dommages pour il y a toujours des dommages pour les personnes qui sont accusées et aussi il y a des dommages aussi pour la victime. Et là, ça me permet de dire à la victime, parce que dans ce cas-ci, il y a des images. C'est un peu difficile de dire que ça n'a pas eu lieu s'il y a eu des images. Je les ai pas vues.
Ben, les rapports, ils ont été avoués dans le sens où il y a eu un retrait de consentement quand la victime aurait remarqué qu'ils n'étaient pas seuls, les deux, dans la chambre. Parce que ça a commencé par un consentement qu'elle a retiré quand il y était deux joueurs et non pas un dans la chambre.
Ben vois-tu, il y a matière à discussion.
Par rapport à quoi?
Ben effectivement, s'il y a eu... Dans le fond, là, la défense des deux gars pourrait être ceci. Dans le fond, elle était volontaire, puis en cours de route, elle a changé d'idée. Eux autres, ils pourraient dire que c'était consensuel.
Oui, bien ça. Ça va être la défense des joueurs, c'est ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que chez les Tigres, et dans la LHMQ, d'ailleurs, on se donne 48 heures. Est-ce qu'on était prêt? Est-ce qu'on s'attendait à ce que ça aille jusqu'à des accusations, arrestations qui ont eu lieu hier où on pensait que c'était pas assez solide pour aller jusque-là? C'est pourquoi les deux joueurs étaient toujours en uniforme pour débuter la saison.
Bien, tout est possible, effectivement. T'sais, c'est sûr que si les deux jeunes ont témoigné devant la Ligue en donnant leur position avec l'entourage, peut-être que la vision était pas mal différente du contenu du dossier du procureur général. Là. Là-dedans, dans le fond, probablement tout le témoignage de la jeune fille, des circonstances, des témoins de avant-après, les parents, la visite à l'hôpital. Donc, il y a des déclarations qui sont faites, qu'on appelle contemporaines, proches de l'événement, qui viennent souvent colorer un peu le tableau. Par la suite, c'est facile de un peu ajuster notre histoire pour la rendre un peu plus où ce qu'on est, nous autres, on est un peu plus adéquat dans la situation. Fait que c'est souvent les déclarations contemporaines qui vont faire une différence et c'est probablement ça qu'ils avaient entre les mains pour déposer des accusations.
Ben écoute, Sophie, et dans tout ça, là, moi j'entends ça, puis je me mets à la place de victimes qui ont été vraiment victimes d'actes criminels, de gestes sexuels. C'est tellement pas facile dénoncer, mais faites-le, même si il y a tout ça qui protège les agresseurs, et là, je nomme pas personne, là, j'ai pas nommé les joueurs, ils ont droit à leur présomption d'innocence, mais si jamais tout ça est arrivé pour vrai, eh bien, je salue le courage de cette victime-là, le lendemain matin, d'être allé porter plainte.
Oui, absolument. Puis là, je dois vous dire, pour les victimes de violences comme ça, c'est pour ça que la semaine passée, j'ai fait le podcast sur... pas la semaine passée, la semaine d'avant, sur les victimes d'actes criminels, puis le tribunal spécialisé en violence. Parce que dénoncer, c'est extrêmement difficile parce qu'effectivement, on va se faire dire qu'on participait ou c'est de notre faute, tous les préjugés habituels. Fait qu'il y a le centre d'aide aux victimes d'actes criminels à Montréal que vous pouvez téléphoner. Il y a évidemment le tribunal, justement, pour s'assurer que les victimes soient bien encadré et une victime peut poursuivre au civil pour les dommages moraux parce que cette jeune fille-là, qu'il soit acquitté ou non, les deux garçons, là, cette jeune fille-là va vivre avec des séquelles. Elle peut faire une demande à l'indemnisation des victimes d'actes criminels aussi.
Maître Mongeon, merci et bonne semaine.
Bye, Sophie.
Merci, bonne semaine.